C'est dingue, ouais, puisque bah, notamment avec moi dans les studios de CFM Rhodes, Arthur. Salut Arthur.
Salut David.
Arthur qui termine son stage à la radio, il est à l'IUT de Rhodes en deuxième année d'Infocom et prépare des écoles de journalisme, autant dire qu'il est sérieux, le Arthur. Hein. Et Arthur, il y a quelques jours, tu es allé en reportage, il y avait un rassemblement devant le tribunal de Rhodes pour un dépôt de plainte, et je crois que le grand thème, mais on va découvrir tout ça dans le détail, c'était la santé alimentaire.
Oui, effectivement, puisque 5 organisations aveyronnaises se sont réunies il y a quelques jours devant le tribunal de Rodez. Alors c'était pour porter plainte, jusque-là rien d'anormal. Hein. Mais la raison donc, c'est la vente de produits, comme tu l'as dit, qui sont toxiques pour les particuliers. Donc je suis allé voir directement Sylvain Dallet, représentant de l'association Campagne Glyphosate Aveyron, qui m'a expliqué tout ça.
Donc on est 5 associations à se rassembler aujourd'hui pour dénoncer un scandale qui est bien expliqué dans le film Secret Toxique. Et ce scandale, c'est que depuis plusieurs années maintenant, des produits toxiques sont mis dans des produits de biocontrôle qui sont en vente pour les particuliers dans toutes les jardineries. Il a été retrouvé du plomb, de l'arsenic et plein d'autres saloperies. Et c'est ça qu'on vient dénoncer parce qu'on le sait déjà depuis 2-3 ans et ces produits sont toujours en vente. Donc il y a eu une campagne nationale et après nous, par département, on essaye de porter, de déposer le plus de plaintes possible pour que notre action ait le plus de force possible.
Alors produits biocontrôle, ça veut dire qu'ils sont censés être contrôlés, justement, vérifiés.
Alors déjà quand on achète un produit, je pense que n'importe qui achète un produit de biocontrôle se dit j'achète un produit bio et qui est sous contrôle. Et en fait, on se rend compte que les autorisations de mise sur le marché pour des produits de ce type-là, on demande surtout le produit actif. Et en général, c'est de l'acide acétique, en gros un dérivé du vinaigre. Et donc, vu que c'est ce produit qui est mis en avant, on ne demande pas ce qu'il y a d'autre dedans. Et quand on les a analysés, on s'est rendu compte qu'il y avait, en plus de ces produits-là, des produits bien, bien pires, bien plus dangereux, bien plus toxiques, qu'on utilise tous en pensant qu'il n'y en a pas dedans.
Donc en fait tout le monde peut en acheter demain en jardinerie.
Exactement. Donc les produits type Roundup ont été interdits pour les particuliers, les agglomérations, les communautés à partir de 2018 ou 2019. Et donc c'était des alternatives au Roundup. En fait, c'était pour remplacer le Roundup pour que les gens chez eux puissent continuer de tuer les mauvaises herbes dans leurs allées, leurs petits jardins, tout ça. Donc on leur a dit qu'il n'y avait plus de glyphosate, qu'ils pouvaient utiliser ces produits, qu'il n'y avait aucun risque pour la santé. Et en fait, on se rend compte que non, ils sont bourrés de produits dégueulasses.
Et aujourd'hui, vous allez porter quelle plainte précise ?
Alors en fait, on porte plainte contre les fabricants des produits qui ont été analysés pour savoir... On a plein de questions à leur poser. On veut savoir pourquoi ils mettent ça dedans, à quoi ça sert. On porte plainte aussi contre les gens qui donnent les autorisations de mise sur le marché. Parce que chaque produit qui est vendu en France, il y a une autorisation de mise sur le marché. Donc on aimerait bien savoir comment sont faites ces analyses, qui décide quel produit est vendu ou pas, suivant quel risque ou pas. Et ça a vraiment l'air très très flou, donc on veut des réponses.
Et les dangers de ces produits concrètement, c'est quoi ? Et pour qui ?
Alors bien... Les gens qui fabriquent ces produits sont très forts, très puissants. Ils font plein d'analyses. Ils ont plein de scientifiques qui bossent pour eux pour bien nous faire comprendre que ces produits sont inoffensifs et qu'on peut les utiliser sans problème. Sauf que ben, maintenant, avec les années qui passent, les décennies qui passent, on se rend bien compte que ces produits sont vraiment très néfastes pour l'environnement, pour les humains qui les utilisent, pour la biodiversité, pour les insectes, pour les oiseaux, etc., etc. C'est un secret pour personne et ça serait vraiment se mettre la tête de faire l'autruche que de se dire que non, tout va bien, que ces produits sont inoffensifs. Quoi.
Donc votre objectif là, par le biais de cette plainte, c'est quoi ?
Ben, l'objectif premier, c'est que ces produits soient retirés de la vente en fait, que plus personne puisse les utiliser tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et pourquoi est-ce qu'on met ça dedans.
Et ça peut prendre du temps de retirer un produit comme ça du marché, est-ce que vous avez déjà réussi à le faire par le passé ?
Ah ben, du coup, il y a quand même eu donc le Roundup qui a soi-disant été interdit. Ça a été après des levées populaires de gens qui ont dit non, c'est pas possible. Et notamment nous, la campagne Glypho, c'est ce qu'on a voulu dénoncer, quoi. C'est qu'on a, on est, on a fait pisser tous les gens et on a fait analyser les urines et on s'est rendu compte que tout le monde avait du glyphosate dans ses urines. Donc en fait, c'est aussi ça qu'il faut dénoncer. Plus on se regroupe, plus on est nombreux et plus on a de force. Après, on se rend très bien compte qu'en face, les gens sont très 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 forts aussi et très puissants. Et donc en fait, fait, il faut jamais lâcher l'affaire. Ça dure des années, c'est des plaintes, c'est des paperasses, c'est des choses comme ça. Il faut se réunir, il faut trouver du temps, il faut trouver des gens qui se bougent un lundi matin. Mais c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Il faut jamais lâcher l'affaire.
Se réunir, justement, est-ce que le fait d'être plusieurs associations, ça aide aussi ?
Ah bah oui, du coup, ça motive. Bon, de toute façon, c'est quand même des gens, c'est un milieu associatif, militant, écolo, donc on se connaît quand même déjà tous un petit peu. Mais enfin voilà, c'est sûr que pour nous, c'est un énorme problème. On n'est pas dupes, on se rend bien compte aujourd'hui que entre la guerre, la crise économique, etc., quand on commence à parler de ça aux gens, on voit bien que c'est des sujets qui intéressent vraiment peu de personnes. Et au-delà de ça, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde mange bio pour être sûr de ne pas consommer ces produits. Mais c'est pareil, donc on sait très bien que la nourriture bio, c'est très cher et qu'aujourd'hui, c'est très dur de finir les fins de mois. Et que les gens, on leur dit, il faut que vous achetiez des pâtes à 5 euros parce qu'elles sont bio, alors qu'ils en ont à 50 centimes au supermarché. Ben voilà, il y en a beaucoup qui hésitent forcément, quoi.
Et toi, Arthur, t'achètes des produits bio souvent, de temps en temps ?
Alors forcément avec les revenus entre guillemets d'un étudiant, c'est compliqué hein, d'acheter bio.
Ouais.
Alors ça arrive de temps en temps, un fruit, un légume qui traîne par là, une huile, mais l'essentiel de mon alimentation n'est pas bio, non, ça c'est sûr.
Voilà, ouais, question de prix. Donc comme vient de nous l'expliquer notamment Sylvain Dallette, on revient à ton reportage, on n'a pas fini puisque tu as rencontré plusieurs personnes.
Oui, effectivement, j'ai rencontré également Philippe Piard, donc qui est porte-parole de la campagne Secret Toxique, qui est aussi agriculteur. Il était également présent sur place devant le tribunal de Rodez et il est venu nous apporter des précisions sur cette campagne justement.
Secret Toxique, c'est une campagne qui a démarré il y a un peu plus d'un an maintenant, exactement le 1er décembre 2020 avec un dépôt de plainte. On a eu en octobre 2020 une étude de Gilles-Éric Serralini de Gérald Ginger démontrant la présence de toxiques cachés. Enfin, qu'on suppose qu'ils n'ont pas été déclarés par les industriels. On ne sait pas. En fait, on se pose la question là-dessus, dans des herbicides à destination du grand public. C'est ça qui nous a effrayés. C'est que ce sont des produits qu'on trouve en grande surface, qu'on trouve en jardinerie, qu'on peut donner à son gamin pour s'en servir sur les, voilà, comme les petites herbes là qui poussent entre les dalles si jamais ça plaît pas à quelqu'un. Et bien, le problème, c'est que quand il ouvre ces bidons d'herbicides sans glyphosate, de biocontrôle. Malheureusement, dedans, il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques, il y a des métaux lourds. En fait, ce qu'on a fini par comprendre, on s'est posé beaucoup la question pourquoi on retrouvait ces métaux lourds, pourquoi on trouvait ces hydrocarbures. En fait, cette industrie, c'est une industrie du pétrole. Et en fait, quand elle dit qu'elle met un acide acétique qui est censé être du vinaigre, en fait, elle le synthétise. Et elle le synthétise dans des immenses cuves dans lesquelles il y a des résidus ultimes d'autres fabrications. Donc, ce qu'on suppose, c'est que ces résidus ultimes, ben on les retrouve dans toutes les préparations commerciales qu'ils fabriquent. On suppose, hein, c'est à vérifier. Moi, on n'accuse pas, mais on cherche à comprendre pourquoi. Parce qu'en plus, ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'en refaisant sur des lots différents, ils ne trouvaient pas les mêmes concentrations. Donc, c'est pas forcément, entre guillemets, ils ne rentrent pas forcément dans la formulation. Ce sont des impuretés. Mais ce sont des impuretés graves et toxiques. Hein, les métaux lourds, ce sont des perturbateurs endocriniens qui s'accumulent dans l'environnement et qui vont vraiment aggraver la santé et aggraver toutes les pollutions qu'on a déjà autour de nous. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont cancérigènes pour la plupart. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est certains bidons, c'est 1 million de fois Lubrizol en concentration de benzoapyrène. Le benzoapyrène, les concentrations qu'on avait trouvées à ce moment-là, quand Lubrizol à côté de Rouen va être explosé, pour ces concentrations-là, on avait retiré les légumes du marché et on les avait jetés, on avait jeté le lait dans les fossés. Sur certains de ces petits bidons, les concentrations de benzoapyrène, c'est 1 million de fois Lubrizol. C'est dramatique. À la suite donc de cette étude, on s'est mis à travailler avec des parlementaires français et européens pour essayer de comprendre comment ces homologations de pesticides arrivaient sur le marché. Donc, quels étaient les mécanismes ? Donc, l'autorisation, entre guillemets, d'une substance active au niveau européen et d'une formulation complète au niveau des États membres de l'Union. Donc, on a enquêté, on a interpellé l'Agence européenne de sécurité alimentaire pour qu'elle nous explique comment elle fonctionnait. Donc, on a été suivi par 119 parlementaires le 25 février 2021. L'EFSA donc nous a répondu et nous a proposé cinq heures d'interview avec l'EFSA pour comprendre comment elle fonctionnait. Au résultat de ces 5 heures d'interview, et on a aussi demandé à l'EFSA de nous envoyer les dossiers sur lesquels on porte plainte aujourd'hui, plus des dossiers de produits à base de glyphosate. Au résultat de ces 5 heures d'interview, ce qu'on a constaté, c'est que c'est ce qu'on dénonce, et ce qui est le plus grave, c'est que les formulations complètes, c'est-à-dire vraiment la totalité du produit, n'est pas étudiée. Il n'y a rien dans les dossiers sur la toxicité à long terme. Alors, je dis qu'elle n'est pas étudiée. Elle n'est pas étudiée correctement. En fait, ils font des... Ils appellent ça des simulations, des calculs numériques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont des données sur certains produits, ils en ont sur d'autres, et ils font des extrapolations pour savoir si, en mélangeant ces produits, ils vont être dangereux. Vous prenez du soufre, vous prenez du salpêtre, vous prenez du charbon, a priori, les trois, ils sont pas spécialement dangereux, on peut même se servir du soufre dans les maladies respiratoires, vous les mélangez, vous avez de la poudre à canon. Je suis pas sûr qu'un ordinateur est capable de nous le dire. Mais c'est leur façon de faire. C'est très discutable d'un point de vue scientifique. Mais en plus de ça, les dossiers, enfin les listes de produits sur lesquels ils se basent pour faire ces études-là sont incomplètes. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits qui sont coformulants dans les pesticides sur lesquels on n'a pas les données de toxicité. Donc, ils ne peuvent pas rendre un avis cohérent, correct, sur les formulations complètes. Ce qu'on sait en toxicologie, par contre, c'est que la formulation complète est 1000 fois plus toxique que la substance active déclarée. On parle toujours, je disais tout à l'heure, on parle toujours de glyphosate, mais le Roundup est 1000 fois plus toxique que le glyphosate. Parce que dans un bidon de Roundup, c'est 40% glyphosate. Et c'est ça qui est grave. Et là, je peux vous donner encore un autre exemple si vous en voulez, mais on a une étude qui s'appelle Pest Expo, qui est une étude scientifique, c'est pas rien à voir avec la campagne Secret Toxique. Ils ont fait des tests chez les agriculteurs pour voir comment ils étaient capables de respecter. Parce que vous savez, l'industriel, les autorités remettent toujours la faute sur l'agriculteur. S'il ne respecte pas, s'il est malade, c'est parce qu'il a mal utilisé les produits, il n'a pas mis la combinaison, il n'a pas mis le masque, etc. Parce que le fait de demander à un agriculteur de mettre son masque, de mettre une combinaison, des gants et des lunettes, ça leur permet de dire que leur produit, de leur soustraire 95% de la dangerosité du produit. Sauf que, ils ont testé, donc déjà comment c'était possible de respecter les obligations légales d'utilisation des produits, mais ils ont aussi mis des patchs sous les équipements, sous les combinaisons, sous les lunettes, sous les gants. Et ils sont aperçus qu'il y avait encore plus de produits sur les patchs qui étaient sous les éléments de protection individuelle. Pourquoi ? Parce que dans ces formulations complètes, il y a des agents de perméation, ce qui permet à la substance active de rentrer à l'intérieur de la cellule. Et en fait, ça passait à travers le plastique. Le pesticide, on le retrouvait sous la combinaison. Et alors pourquoi plus ? Parce que quand on pense qu'on est protégé, on fait moins attention.
Et c'est quoi les dangers concrètement de ces produits ?
Vous savez, la plupart des produits, ils sont là pour tuer le vivant. Alors, on n'a jamais vu encore aujourd'hui de produits qui restaient cloisonnés dans sa catégorie. On voit bien, si on prend l'exemple des fongicides. Là, il y a des chercheurs qui ont montré 80% des fongicides sont des SDHI, des inhibiteurs de la succinate déshydrogénase. Désolé pour les mots barbares. En fait, cette fonction, elle est là pour empêcher la respiration cellulaire. Donc, on fait mourir le champignon qui attaque le blé ou la céréale ou tout ce qu'on veut en empêchant ces cellules de respirer. Sauf que des chercheurs qui ne travaillaient pas sur les pesticides. Ça, j'insiste, qui s'appelle Pierre Rustin, qui s'appelle Paul Bénit, ne travaillaient pas sur les pesticides. Ils se sont aperçus que ça tuait aussi les cellules humaines, aussi les cellules des animaux, aussi les cellules des insectes. Donc, c'est... Voilà. Donc, en fait, quand on balance un SDHI, et là, je veux dire, le fongicide, aujourd'hui, sur nos régions, on n'est pas sur des grandes cultures, mais on a quand même beaucoup de céréales parce que les fermes cherchent à être autonomes sur leur production, et ce qui est bien. Sauf que c'est vraiment le pesticide le plus utilisé par ici, enfin un des plus utilisés, le Roundup en est un autre, mais les fongicides, oui, parce que tout le monde craint d'avoir la carie du blé, d'avoir des maladies sur ces céréales, donc on va utiliser ça, sauf que ça ne s'arrête pas à tuer les champignons, ça tue aussi toutes cellules vivantes, et c'est grave. Donc ça, c'est pour les SDHI, mais si on va prendre les insecticides, pour beaucoup sont des neurotoxiques, c'est pour ça qu'on retrouve des maladies neurodégénératives vous vous rendez compte, être paysan et pouvoir être reconnu en tant que maladie professionnelle, la maladie de Parkinson. Ben moi, je sais pas, quand je me suis installé paysan, je me dis, mais voilà, c'est chouette, je vais être dans la nature, nanana. Puis je me retrouve 10 ans plus tard à pisser du glyphosate, et voilà, et je vois mes voisins que j'aime beaucoup, j'ai rien contre eux, au contraire, mais qui travaillent sans aucune protection, et puis qui un jour vont se réveiller malades, ou leurs enfants. Là, il y a une étude américaine qui vient de sortir sur le glyphosate. Il est transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on retrouve, donc sur des rats, ils ont intoxiqué une parentèle de rats, et ils ont retrouvé des conséquences de cette intoxication chez les petits-enfants et arrière-petits-enfants de ces rats. Ils se sont dit, il faut qu'on vérifie chez les êtres humains. Sauf qu'ils n'ont pas trouvé d'êtres humains qui n'étaient pas déjà intoxiqués au glyphosate.
Et bien voilà David, on est sûrement toi et moi intoxiqués au glyphosate sans jamais avoir labouré un champ. C'est quand même dingue. Hein.
Ouais, c'est sûr que j'ai jamais labouré un champ. C'est certain.
Donc les cinq associations précisément qui ont porté plainte la semaine dernière au tribunal donc sont la Confédération Paysanne de l'Aveyron, Alterna Bio, Biodiva, le comité Cause Comtale et Campagne Glyphosate 12, donc Campagne Glyphosate Aveyron. Pour la suite de cette affaire, on verra si le parquet lance une enquête sur ces différents produits. Ça risque de prendre de toute façon un petit peu de temps, hein. Surtout qu'on imagine bien que de l'autre côté, les industriels, bah, ils vont pas se laisser faire. On se donne du coup rendez-vous dans quelques années, qui sait.
Ah ouais, oui, t'auras fini tes études, tu seras un grand journaliste national. Je dirais, hey, Arthur, reviens, on poursuit l'enquête.
Exactement.
Avec plaisir. Merci Arthur pour ce reportage.